Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Eh bien bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi et vendredi, je vous souhaite un excellent week-end. Et nous sommes ici et là, présents pour vous accompagner dans les informés au sommaire, pour analyser, commenter et décrypter l'actualité, vous le savez. Eh bien, au sommaire, ce que je vous propose, tout d'abord on va démarrer avec le quoi de neuf, le billet d'humeur attendu, vous le savez, comme chaque vendredi. C'est celui, la signature de Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale. Ensuite, nous irons, eh bien tout à l'heure, rencontrer Dominique Sopo, le président d'SOS, parce qu'il a prévu ce week-end d'ailleurs de manifester. Il nous dit tout à l'heure en direct ici même dans les informés. Et ensuite, après, au sommaire avec les débatteurs influenceurs, eh bien nous reviendrons sur ce fameux bateau de migrants, les tensions qui montent au sein même de l'Union Européenne, et puis la France qui renvoie la balle à l'Italie, l'Italie qui s'adresse à la France, chacun, bref. Quel enjeu, évidemment, quand on parle de ces migrants. Et puis, surtout, nous prendrons le temps de décrypter cette actualité. L'inflation, c'est le tsunami partout. Les prix vont commencer à flamber. Et figurez-vous, dès début 2023, eh ben, ça ne sentira pas bon tout cela. Puisque c'est le PDG de Leclerc qui prévoit un tsunami. C'est pas mon terme, le tsunami. C'est le PDG de Leclerc, Édouard Leclerc, qui lui-même dit, eh bien, attendez-vous à ce que 2023, eh bien, les produits, eh bien, on parle de flamber des prix. Ensuite, la Coupe du Monde, le Qatar, c'est dans quelques jours, mais surtout on s'intéressera à Vinci qui est mis en examen par la justice française. Le midterm, c'est les mi-mandats. Alors, est-ce que Joe Biden est condamné à composer avec les Républicains? C'est la question qu'on s'oppose tout à l'heure. Et puis vous, au 01 53 48 3000, vous êtes les bienvenus et vous êtes de plus en plus nombreux. C'est parti, les informés, c'est tout de suite et en toute liberté d'expression, plus que jamais.
Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, c'est parti tout de suite, exceptionnellement, on démarre avec le quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Et le quoi de neuf, vous le savez, c'est avec Michel Taube, le patron de l'Opinion Internationale, le média en ligne. Bonjour Michel.
Bonjour cher Adil et bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
Mais comment ça va? Tout va bien vous concernant?
Écoutez, ça va. Non, ça va.
Bon, nous allons parler de la grève, nous vous écoutons, c'est votre billet d'aujourd'hui, c'est votre quoi de neuf, c'est parti.
Oui, bah oui, il y a eu les Parisiens, les Transiliens et aussi dans quelques autres villes de France, je crois à Marseille également, ça s'est produit, ont de nouveau été pris en otage par nos amis de la CGT. Mais sur Paris, j'aimerais quand même dire deux, trois petites choses.
Vous allez réveiller notre représentant CGT, Jimmy Dalidou, qui est sur le plateau d'ailleurs.
Eh ben, je le salue, mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que, c'est réussi en termes de comité d'accueil de Jean Castex, ancien Premier ministre et nouveau président de la RATP. Donc là, vous avez réussi le comité d'accueil. Ça, bravo, félicitations. Mais après, honnêtement, et d'autre part, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf.
Oui.
Il y a le 8 décembre prochain des élections dans toute la France, dans les services publics, des organisations représentantes des fonctionnaires publics.
Oui.
Et donc, il y a actuellement une concurrence entre les organisations syndicales qui font qu'il y a des manifestations, des initiatives prises de tous les côtés pour essayer d'être un petit peu plus royaliste que le roi.
Oui.
Mais ça n'est pas à faire sur le dos des citoyens. Vous avez aujourd'hui des femmes et des hommes qui traversent toute l'île de France, qui n'arrivent pas à trouver n'ont pas de transport en commun pour se rendre à leur travail, pour souvent les premiers cordés qui font le boulot, qui fait vivre et qui fait tenir notre pays, qui se retrouvent pris en otage. Je ne trouve pas ça normal.
Oui.
Et puis, pour avoir traversé Paris à deux reprises en cette journée de grève, je n'ai jamais vu autant de voitures dans les rues de Paris.
Oui.
Donc moi, je propose d'adresser à M. Martinez la facture de l'empreinte carbone de cette journée de grève qui a fait qu'énormément de Français ont dû prendre leur voiture alors qu'ils commençaient à s'en libérer un petit peu. Donc,
ouais,
effectivement, c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de passer. Je pense que dans une société développée comme la France, il y a d'autres moyens que la prise en otage des citoyens pour manifester son désaccord et ses revendications.
Michel Thau, vous permettez que je vous garde parce qu'il y a Jimmy Dalidou qui souhaite d'abord vous répondre, mais il y a aussi Karim Alouache qui est un acteur politique mais également aussi dans la finance qui souhaite aussi vous interpeller. Jimmy Dalidou, le représentant CGT qui est sur le plateau. Michel Thau vous écoute.
Oui, alors, salutations.
On va ouvrir le micro. Ouais. Allez-y.
Salutations, Michel Thau. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis sur deux éléments. Premier élément, c'est qu'il ne faut pas oublier que le droit de grève est un droit constitutionnel. Et qui c'est un droit constitutionnel qui n'est pas tombé de nulle part, puisque on rappellera que le droit de grève résulte des différentes luttes sociales. Nos anciens se sont battus pour avoir le droit de se mettre en grève, pour avoir le droit de poser des revendications, pour avoir le droit de se battre, pour avoir le droit de défendre des conditions de travail, de développer des conditions de travail, etc., etc. Ça, donc déjà, c'est la première chose, droit constitutionnel qui est normalement incompressible. Et la deuxième chose, c'est que le gréviste en lui-même, c'est aussi un citoyen. On parle de citoyen gréviste. Et le citoyen gréviste, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des formations, il y a des entreprises publiques, des grosses entreprises publiques qui sont dotées de structures syndicales. Moi, par exemple, je bosse à la SNCF, la CGT Cheminot, on est organisé. Malheureusement, dans le privé, les salariés du privé voudraient suivre les mouvements de grève. Le problème qui se pose dans ce pays, c'est que vous avez le droit de vous syndiquer lorsqu'il s'agit du MEDEF. Mais quand il s'agit de ce syndicat à la CGT, vous êtes réprimé.
Oui, mais sauf que Michel Thau, il vous dit qu'il y a un enjeu dans quelques jours, c'est-à-dire le début décembre. C'est là où il vous interpelle. Il dit, effectivement, vous prenez la France en otage.
Non, mais attendez, on ne prend pas la France en otage. Déjà, je réfuse ce terme d'otage, parce qu'une prise d'otage, c'est quand vous êtes quand vous avez une arme à la main et que vous me menacez de ôter la vie à quelqu'un. Donc déjà, c'est un mauvais terme. On ne prend pas les Français en otage.
Il vous répond, Michel Thau.
Non, mais moi, je vous redis. Vous faites souffrir les plus fragiles d'entre nous. Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un taxi, ceux qui n'ont pas les moyens de travailler en télétravail, les personnes qui sont des aides à domicile, par exemple, et qui ont besoin de traverser la moitié de l'Île-de-France pour se rendre au chevet d'une personne dont ils se préoccupent. Comment ils ont fait aujourd'hui ? Honnêtement, je comprends le droit de grève, comme tous les autres droits fondamentaux, il est très important, bien entendu, mais il n'est pas illimité. Toutes les libertés sont limitées, encadrées, jusqu'à la porte des droits des autres pays. Donc, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à bloquer le siège de la RATP en guise de comité d'accueil de Jean Castex, et vous lui dites, voilà, on veut une augmentation de salaire. Et vous ne bloquez pas toute la région.
Gaffe de zèle aussi.
Des millions de personnes qui sont aujourd'hui en train de...
Jimmy Dalidou et ensuite Karim Alouache.
D'abord, les représentants, quand on déclenche des préavis de grève, on ne le fait pas avec le plaisir. On le fait, ça nous embête, en fait, parce qu'on sait qu'on va gêner les gens. Donc déjà, on ne fait pas de... Voilà, ça ne nous fait pas plaisir. C'est toujours... Les grèves sont vraiment sont difficiles pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je reviendrai sur un élément, ce qui est... Je réaffirme que le problème vient du fait que beaucoup de salariés dans le privé ne peuvent pas s'organiser sur le plan syndical parce qu'il y a répression, il y a licenciement. Un patron dans le privé, il préfère licencier plutôt que de voir un salarié s'organiser au niveau syndical. Ça, c'est un gros problème. Et la troisième élément, parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont parlé de grève préventive, etc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand il y a un préavis de grève, c'est qu'il y a déjà eu des concertations entre les partenaires sociaux et les RH. S'il y a eu un préavis de grève, c'est que les discussions et les débats sont totalement intégrés dans le processus qui mène à un moment un préavis. C'est-à-dire que si à un moment il y a un préavis de grève, c'est que les discussions n'ont pas abouti. Donc il faut arrêter de dire que le préavis de grève tombe du ciel comme ça du jour au lendemain. Non, c'est faux. C'est qu'il y a eu des discussions et que les partenaires sociaux, les salariés ont voté pour des représentants. Il y a eu des discussions et les discussions n'ont pas abouti.
Karim Alouache, et je vous libère ensuite, Michel Thau.
Moi, je voudrais intervenir sur deux points. D'ailleurs, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Moi, je suis un homme de droit, donc je suis banquier d'affaires et je suis un homme de droit. Et il y a un droit de grève, donc je ne débattrai pas sur le fait que ça emmerde ou pas. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'on soit obligé de faire grève pour que quelque chose bouge. Et là-dessus, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Vous le savez aussi bien que moi que si vous touchez pas au portefeuille ou si vous dérangez pas, tout le monde s'en fiche. Ce qui n'est pas normal, et là-dessus, il faut le reconnaître quand même, c'est que globalement, je parle des salariés de la fonction publique, mais rassurez-vous, dans le privé, tout le monde ne gagne pas de gros salaires, bien au contraire. c'est qu'aujourd'hui, on ne puisse pas vivre décemment avec son salaire. Point à la ligne. C'est pas normal, cette notion, dans un pays dit développé, dans un pays qui fait partie des grandes puissances du monde, c'est pas normal qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Ça, c'est la première chose. Et pour revenir aux entreprises qui gagnent beaucoup d'argent.
Non, mais les agents.
Attendez, je termine. Écoutez, moi, je peux vous montrer des salariés de la RATP. Aujourd'hui, la RATP n'arrive pas à recruter des chauffeurs de bus parce que les gars.
Mais ce qu'ils voulaient en train de vous dire, Michel Taube, c'est que ce n'est pas des salariés pauvres.
Non. Un salarié pauvre, pour moi, c'est un salarié qui ne peut pas finir ses fins de mois.
Les agents Total, qui ont bloqué, les 120 agents Total qui ont bloqué la France. Pendant quelques semaines, il ne gagnait pas 1 000 euros par mois.
Non.
Alors, écoutez.
Il gagnait
alors,
pas 5 000 euros par
non,
mois.
Non, mais arrêtez, arrêtez de botter en touche. On parlait de la RATP.
Non, je botte pas en touche.
On parlait de la RATP. Donc, restons sur la RATP, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est un discours et un débat politique et on perd notre temps. La politique dans ce pays nous fait perdre notre temps depuis 7 ans maintenant. La deuxième chose, vous avez parlé d'empreinte carbone et de Paris. Moi, j'hallucine. C'est pas les voitures. C'est les pistes cyclables. Allez rue de Rivoli, vous pouvez pas circuler dans les rues de Paris aujourd'hui. Il y a une voie pour les voitures, deux voies pour les vélos et une voie pour les bus. C'est ça. Et les bouchons dans Paris, ils sont pas d'aujourd'hui. C'est tous les jours et jusqu'à 23h, jusqu'à minuit.
Après le coup de gueule de Michel Taube, c'est le coup de gueule de c'est Monsieur Alouache Karim.
C'est Anne Hidalgo avec ses conneries de construction qui provoque en fait de la pollution. On sait tous que ce sont les bouchons qui polluent le plus. Une voiture qui roule normalement, elle ne pollue pas. Et la dernière question autour de ça. Attendez. Et la dernière question autour de ça. Moi, je suis désolé. Il y a un vrai sujet en Île-de-France. On attaque les voitures. Moi, je prends plus les transports en commun depuis plusieurs années. Pourquoi ?
Oui.
Ça marche pas. C'est en retard. C'est sale et c'est insécurisé. Donc, tant qu'on réglera pas ça, eh ben, on les reprendra pas. Eh ben, c'est là-dessus
Michel
qu'il faut parler aux politiques pour qu'on réagisse.
Michel Taube.
Non, mais là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Alois. Je suis absolument d'accord. Il y a une idéologie, du tout vélo qui va pas du tout avec la façon dont les transports sont organisés, en Île-de-France. Mais ce que je voulais dire là, c'est que, à cause de la grève, beaucoup de voies, il y avait des bouchons vraiment très très importants, comme je n'avais pas vu depuis très longtemps, parce que les gens ne pouvaient pas prendre leur transport en commun et faire la voiture. Et du coup, avec un peu d'ironie, je proposais qu'on envoie la facture énergétique à M. Martinez. Voilà. Mais vous savez, M. Alois, je ne fais pas de la politique en disant ce que je dis. Je ne fais pas de la politique. Je regrette moi-même qu'il n'y ait pas aujourd'hui. Moi, je suis alsacien. En Alsace, on a une habitude de concertation. C'est l'esprit rhénan, le Rhin, où on a un modèle beaucoup plus de dialogue, et des solutions et éviter les blocages comme il y en a souvent en France, dans le reste de la France. Donc voilà, mais je trouve qu'en 2022, on devrait pouvoir trouver d'autres solutions que de la grève.
Les salaires, par contre, c'est pas vrai.
Pour augmenter les salaires.
Merci. Merci messieurs, merci. Nous nous retrouvons parce que je suis contraint de lancer la pub, la pause. Merci mon cher Michel Taube, hein, je vous ai retenu, mais
merci
effectivement c'était pour installer le débat, vous le savez, hein, comme chaque vendredi, vous lancez le sujet et vous le lancez en même temps le débat.
Eh ben, merci à vous et bonne semaine à tous les auditeurs de Beurre FM.
Et un bon week-end, la semaine prochaine, sans faute. On se retrouve dans une poignée de minutes justement avec le face-à-face. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et nous sommes avec les débatteurs influenceurs, justement, c'est parti, le face-à-face.
Les Informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Karim Alouache, l'homme de la finance, bonjour.
Bonjour.
Parce que je vois, vous avez ça vous ronge, c'est plus fort que vous. Vous êtes obligé de commenter l'actualité politique, hein. Vous êtes rattrapé tout le temps par la politique, hein. Vous allez vous présenter un jour au sein de votre ville, hein.
Non. Dans ma ville, non, certainement.
Mais la politique vous habite, hein.
Non, moi
elle
je trouve
habite,
que
hein.
Quand
vous
on
la quittez, mais vous, elle vous rattrape.
Non, quand on est citoyen, là, on a le droit de donner son avis. Et d'ailleurs,
vous reviendrez en politique ou pas? C'est une question vraiment que vous posez.
Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'intéressant. En tout cas, dans la construction politique d'aujourd'hui.
Moi, je vous dis quelque chose.
On considère les partis comme des.
Vous allez revenir. C'est pas possible. Ça vous habite. Je vous le dis, vous verrez. Rafik Tamgari, un autre métier justement, un autre homme de la finance. Rafik Tamgari, bonjour.
Bonsoir Adil.
Alors lui, pour le coup, c'est un élu de la ville de Royenne-Mamaison.
Tout à fait.
Ouais,
et
absolument.
Je suis toujours très heureux de venir à ce plateau. Je suis très
à vos côtés, Jimmy Dalidou, justement le représentant CGT, mais également auteur. Jimmy Dalidou, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va.
Messieurs, tout de suite, nous allons parler d'une autre polémique, d'une tension qui, justement, chacun se renvoie la balle en permanence, mais cette tension, vous savez, elle est palpable depuis déjà quelques jours. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ces bateaux de migrants, pourquoi le ton monte et pourquoi l'Europe ne prend pas justement ses responsabilités quand on voit ce bateau de migrants et on a entendu encore quelques jours Olivier Véran dire non mais attendez, c'est à l'Italie de l'accueillir. Maintenant, évidemment, le chef de l'État Emmanuel Macron est obligé, parce qu'il est bloqué, de récupérer le bateau. Bref, pourquoi l'Europe ne prend pas ses responsabilités? Qui veut prendre la parole? Allez, Rafik Temgari.
Moi, je pense que l'Europe a déjà statué, elle a dit, la Commission européenne, qu'il faudrait que le bateau retourne au port le plus proche. Et que le port le plus proche, c'est bien l'Italie. Mmh. Et que le bateau doit partir en Italie. Actuellement, il est en route vers la France, donc je pense que c'est plus Toulon. Mais ça dépend de quel côté. Il est déjà en France, donc il faut dire de quel côté on se positionne. Est-ce qu'on voit le côté humanitaire? Donc là, on a 234 migrants, donc où là, la situation est tragique et il faudrait vraiment trouver une solution. Et je pense que ça ne vient que de la part du président de la République. Donc il doit prendre une décision rapide pour dire.
Sauf que là, c'est compliqué pour lui, Emmanuel Macron.
Tout à fait.
Pourquoi?
C'est ce que je dis. Il
entre le député qui avait lancé cette polémique la semaine dernière, souvenez-vous, qui a interpellé le député LFI ou lui dire retourne en Afrique.
Exactement.
Il y a ça. Exactement. Deuxième, c'est la question des migrants avec Gérard Darmanin.
Tout à fait.
N'oubliez pas. Comment la France va se. Comment?
Moi, je pense
c'est compliqué. Non, mais ce sujet-là, attention, il va provoquer beaucoup de débats au sein
du
Parlement.
C'est vrai, parce que ça va faire une marche arrière pour le président, mais je pense qu'il est obligé de faire cette action-là. Parce que là, c'est le côté humanitaire qui prime sur le côté politique. Aujourd'hui, il y a énormément d'associations qui aident les migrants un peu partout en France. Et quand vous voyez visiter ces associations-là, ils vous disent que, certes, si on suit le politique, bah, je pense que demain, l'extrême droite voudrait surtout pas que ce genre de navire approche les nos côtes. Donc, c'est clair. Mais après, on va pas écouter que le politique. Il y a heureusement le côté humain, et c'est là où le président de la République.
Sauf que la politique est rattrapée par ce sujet, je vous le dis encore une fois, par le débat houleux et l'échange des propos qualifiés racistes.
Faire appel à son côté humain, au cœur, je pense, de temps en temps, c'est assez important pour des personnes pareilles qui souffrent énormément. Le fait de venir en Europe, c'est juste extraordinaire. Je pense que quand vous voyez un petit peu ce qui traverse ces migrants-là, ce qui souffrent, que ce soit dans les pays de l'Afrique du Nord ou la traversée du désert, ou je veux dire parler avec des migrants, essayer de voir dans des associations,
c'est
très compliqué. Donc je me dis que nous qui sommes de l'autre côté de la Méditerranée, on est en Europe, on essaye quand même de trouver une solution. Et là, en l'occurrence, c'est le président de la République qui doit prendre cette décision là. Certes, elle est pas, je veux dire, c'est un rétropédalage, mais je pense que c'est le côté humain qui doit
l'emporter. Alors Karim Alouache, justement, après le débat, l'échange, les propos racistes avec le député du Rassemblement National qui interpelle le député du RFI, retourne en Afrique, il y a aussi cette histoire de Gérard Darmanin avec la loi sur les migrants, et puis maintenant, ce bateau de migrants, est-ce que la France n'est pas rattrapée par un sujet qui risque d'être un peu compliqué? Karim Alouache.
J'ai envie de dire, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de dire tout et son contraire, à force de faire le jeu politique des autres en disant je fais ça parce que politiquement pour moi c'est favorable ou défavorable, au lieu de faire les choses avec le bon sens. D'abord, c'est pas un nouveau sujet, les bateaux des migrants dans les eaux internationales. Il y a déjà eu des précédents, et ce qui m'étonne, c'est que l'Europe n'est pas pris une procédure, n'est pas statué là-dessus.
Si, l'Europe avait dit.
Non, mais pour les suivants, parce qu'il y en aura d'autres. Il faut entendre une chose, on ne quitte pas son pays pour le plaisir de le quitter. Vous savez combien il y a eu de morts en Méditerranée cette année? Il y a eu 2000 morts en mer de migrants, dont 90% en Méditerranée.
Exact.
On ne monte pas sur une embarcation, sur une barque jouée,
exact,
pour le plaisir de partir, etc. Je vous rappelle quand même qu'il y a un siècle, il y a des migrants qui partaient aux États-Unis pour aller faire fortune. Non, je ne parle pas de ça. Non. Des migrants qui partaient aux États-Unis, des Anglais, des Européens, d'accord, des Polonais, des Italiens, etc. Et d'ailleurs, des gens aussi qui ont fui les guerres. Donc ça, c'est une première chose. On parle de 234 personnes. Les Italiens, ils réagissent parce qu'ils écoutaient. Moi, j'en accueille, ça me coûte une fortune. Personne ne m'aide. Le problème, il est au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne doit statuer.
C'est ce que je dis.
L'Union européenne dit, c'est toi qui accueilles, c'est toi et toi et toi et toi qui paye.
C'est déjà mis en place.
Et on sent, On sent une... Oui, mais
c'est la pas... Grèce accueille, on l'Italie sent... accueille.
Oui, mais personne n'est payé.
Bah, l'Allemagne accueille.
Et, donc... et le dernier point. Et alors, ça m'a fait rigoler, parce que la Corse a dit, OK, moi, je les accueille.
Bah,
c'est,
oui.
C'est, et ça veut dire que même Macron et les Corses ne sont même pas en face. C'est assez hallucinant. Moi, je vais vous dire une chose.
Oui.
On parle de 234 migrants.
Oui.
Quand il a fallu accueillir les réfugiés ukrainiens, personne n'a discuté.
Mais c'est pas la même
chose.
Tout le monde
s'est mobilisé. Pourquoi c'est pas la même chose?
Parce que
ça veut... tu es en train de dire que c'est pas les mêmes humains, c'est pas les mêmes âmes.
Non, c'est pas ce que je dis.
On a le droit à une clochette là.
C'est pas la même chose. Parce que tout simplement, c'est pas la même culture.
Écoutez-vous, écoutez-vous. Attendez, attendez.
Alors moi, pour moi, dans les réfugiés, il n'y a pas de hiérarchie. C'est comme dans le racisme. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas des petits racistes ou des grands racistes. Il y a des racistes. Les réfugiés sont tous des réfugiés. Ils fuient des guerres. Ils fuient des guerres.
Mais certains vous diront, il y a des migrants et les réfugiés.
Alors, dans ce cas-là,
ce sont des réfugiés.
Dans ce cas-là, dans très peu
d'années. Parlons-en, Rafik et ensuite Jimmy Dalidou qu'on a
entendu. Dans très peu d'années, on va avoir des migrants climatiques. Et on sait très très bien qu'il y a des millions, d'Africains qui vont pouvoir, qui sont obligés de changer de lieu de résidence.
Mais il y en a déjà.
Exactement.
Mais il y en a déjà.
Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, en France ou en Europe, on est capable de recevoir la totalité de ces migrants-là? Donc il faudrait quand même, il y a eu des colloques, il y a eu des échanges, des débats, et que c'est des vrais sujets pour moi de société où on se dit il faudrait les accueillir, mais il faut bien les accueillir. Aujourd'hui on peut pas accueillir l'ensemble des personnes qui viennent. Non. Donc il faudrait essayer.
Mais moi je vais te répondre. Bien sûr qu'on va les accueillir. Bien sûr. L'Afrique, le continent africain est responsable de 3%. De 3% de l'empreinte carbone. 3%.
Mais on parle pas de pollution,
non,
là.
Non, le changement climatique, c'est ça. D'accord? C'est la couche d'ozone, etc. 3%.
Mais.
C'est le continent au monde, enfin, c'est le seul continent qui pollue le moins. Et c'est le premier continent fini.
Oui, mais dans ce cas-là,
c'est dérèglement climatique.
C'est la Chine et les États-Unis qui sont les plus grands pollueurs. Et les Africains ne partent pas en Chine et partent pas aux États-Unis.
Ça va dans tous les sens. Je suis obligé de lancer la clochette. Jimmy Dalidou.
Alors, moi, je partirais d'un principe de base, un principe qui est. Alors, je me souviens, vous vous souvenez, il y a un homme qui s'appelait Ernesto Che Guevara qui disait, je cite, si tu trembles d'indignation à chaque injustice, alors tu es mon camarade. Et je pense que ce que disait le Che, c'est exactement ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a injustice face à la misère humaine, on devrait tous être camarades face à cette situation. Je prends un exemple concret. Admettons, il y a à peu près 36 000, on va prendre des chiffres, il y a à peu près 36 000 communes en France.
Ouais. Mais le bateau, vous savez qu'il est à Toulon.
Ouais, juste,
c'est ça qu'on veut faire. Il est à Toulon, la France l'accueille, l'enjeu, il n'est pas là.
Allez-y. Vous allez comprendre. Admettons que vous aviez 36 000 migrants qui soient sur un bateau. Vous répartissez un migrant par commune, vous les répartissez sur les 36 000 communes, ça fait un migrant à une personne par commune.
Oui.
C'est pas ce que j'appelle une invasion de la France. Là, ils sont un peu plus de 200. Ils sont un peu plus de 200.
C'est pas
comme ça que ça se passe. Karim Aloche avait le chiffre exact. 234
principes et on doit. Ah,
c'est ce que j'ai.
Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. On doit les accueillir. Mais par contre, une fois que la
France. Vous allez lui répondre, Rafik.
Laissez-moi terminer. C'est une position. On peut pas, si vous voulez, on peut pas parler de république une et indivisible et en même temps dire oui, mais toi.
Oui, mais la réalité, c'est que, pardonnez-moi. La France est rattrapée par un sujet.
Attendez.
Elle est rattrapée par ce sujet.
Laissez-moi
justement.
J'y arrive. Il faut les accueillir, mais en même temps, placer devant leurs responsabilités l'Italie qui est dirigée par Fratelli d'Italia. Je vous rappellerai que Fratelli d'Italia, l'orientation idéologique de Fratelli d'Italia, c'est clairement du néo-nazisme. Et à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Alors, si l'Italie refuse
très important ce sujet.
Je redis juste une chose.
Rafik Samgari, ensuite Karim. Non, mais il est important
Fratelli
ce sujet.
Italia. Alors, ne parlons plus de...
Attendez, s'il vous plaît.
Alors, encore une fois, Fratelli Italia ont été élus par les Italiens. Et ça, c'est un jeu démocratique et c'est comme ça que ça se passe. Il faut respecter la démocratie, même si c'est de l'extrême droite. Pour revenir au jeu.
Ça veut dire que je peux pas être dans l'opposition.
Oui, mais il faudrait pas mettre tout le monde dans. Et c'est comme ça, quand on est élu, on respecte le choix du peuple.
Alors, l'opposition,
quand on parle des migrants, il faudrait aller sur les choses concrètes, sur le terrain. Moi, je parle de ma ville où je connais et on a une association de migrants. On a reçu des migrants de partout, d'Afghanistan, des migrants qui sont venus d'Ukraine, etc. C'est toute une organisation quand on reçoit des migrants. Il faudrait les recevoir. Quand on les reçoit, il faudrait les former. Il faudrait leur trouver les moyens de bien les accueillir, trouver des places dans les écoles pour leurs enfants, trouver des maisons. Donc ce n'est pas facile de dire oui, je vais recevoir 200 ou 300 personnes chaque jour. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas
comment ça se passe
dispatcher.
Alors non, mais c'est vrai, il a raison. Karim et Jimmy soulèvent une vraie question.
Aujourd'hui, quand on a eu des migrants, il fallait voir des gymnases pour, au départ, essayer de
la
trouver
France dit,
un
la
lieu.
France dit, elle le dit. La France, Gérard Darmanin, il dit, l'Italie, son attitude, c'est inacceptable.
Mais bien sûr que c'est inacceptable, parce que il y a eu déjà une règle qui a été mise en place, c'est de dire le port le plus proche, c'est là où ça va partir. Aujourd'hui, bah, le bateau, il est en France, alors qu'il était en Italie, à côté des côtes italiennes. Donc, je pense que là, il y a un non-respect de l'Italie.
Je comprends pas que ta position, Rafik, parce que t'es en train de dire que tu parles d'une base sociale, économique et sociale qui ferait un peu compliqué, qui ferait qu'on pourrait pas accueillir 200 personnes en galère.
Mais non, alors, c'est pas ce que
s'agit des Ukrainiens, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il s'agit d'un bateau qui vient d'Afrique, il y a un problème.
Karim Alouache qui réclame la parole depuis tout à l'heure. Rafik, rapidement. Vous lui répondez rapidement, s'il vous plaît.
C'était une décision.
Deux poids, deux mesures. En gros, c'est ce qu'il dit. Les Ukrainiens, les Africains.
Donc, décision de l'État, c'est une guerre. C'est en Europe. C'est nos voisins, ils sont à côté. Donc, l'État a fait en sorte de mobiliser l'ensemble des collectivités pour qu'ils puissent trouver des solutions et des fonds. Et il y a eu des aides. Actuellement, pour les Africains, pour les migrants, c'est pas le cas. Donc, c'est pas une politique d'État, c'est une politique locale. On a des maires qui acceptent, d'autres maires qui n'acceptent pas.
C'est une politique nationale qui s'organise
au niveau
local.
Karim Alouache, et je lance la pub.
Moi, franchement, j'entends ce que tu dis et je comprends par ton mandat d'élu que tu tiens ces propos.
Mais pas du tout, je les pense réellement.
Non, attends, je vais finir. Reprends ta liberté. Moi, je suis désolé. On a accueilli en France 100 000 Ukrainiens.
Vous permettez que je lance la pub, parce que là, on me dit qu'il faut absolument la lancer et je vous donne la parole. Je suis désolé, Karim Alouache, mais si je la lance pas, elle partira toute seule. Donc, ça risque de vous couper. Alors, lançons la pub et on se retrouve. Suspense, hein. Je redonne la parole à Karim Alouache. Ne bougez surtout pas. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, Les Informés, c'est avec Rafik Temgari, avec Karim Alouache et enfin avec Jimmy Dalidou. Comme chose promise, chose due, évidemment, je redonne la parole à Karim Alouache qui s'apprêtait à répondre à Rafik Temgari. Allez-y.
Alors, je disais que j'entendais et je comprenais pourquoi il tient ses propos qui me choquent, mais il est tenu par son mandat. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas dans la partie politique, parce que je peux dire ce que je pense. Et même si ça dérange.
Mais moi, je suis désolé.
Laissez-le développer, s'il vous plaît.
On peut pas, clairement, humainement, quand tu t'as parlé d'humanité, on peut pas faire une hiérarchie sur les réfugiés. Et les réfugiés et les gens dans le bateau sont pas des migrants, sont des réfugiés. Tu disais, il faut former, non? Les réfugiés, tu sais, les Syriens, ils fuyaient une guerre. Toute cette zone-là, ils fuyaient une guerre. Mmh. On les a refoulés partout. On les a pas accueillis. Et pourtant, ils étaient quoi? T'as vu les profils? Moi, j'ai fait des distributions alimentaires à la porte d'Aubervilliers. Ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins, ce sont des enseignants, ce sont des scientifiques. Ils ont fui une guerre.
Ils sont partis en Allemagne, ils ne sont pas venus en France.
Non, il y en a plein.
Là aussi, la France n'a pas eu la crème des Syriens. Il faut le rappeler quand même.
On a pas voulu les accueillir, on les a rejetés, on les a traités. Parce que il faut le dire et c'est la vérité, il y a des préjugés en fonction de l'origine et c'est
vous êtes
de la religion aussi.
Ouais, vous êtes convaincu de ça?
Mais bien sûr. Regardez, c'est très bien
qu'est-ce
ce qu'on a fait pour les
ça
Ukrainiens. On a que 100 000 Ukrainiens. On s'est mobilisé, on s'est organisé, on a donné des milliards pour les accueillir et c'est très bien. Mais pourquoi
c'est ce que je dis, c'est
une
politique d'État.
Pourquoi pour 234 réfugiés sur un bateau dans les eaux territoriales et c'est arrivé dans le passé? On est en train de discuter, alors que c'est une goutte d'eau.
J'entends. Dans l'ordre, Rafik Temgari et ensuite Jimmy Dalidou.
Il y a deux poids, deux mesures.
J'ai bien fait de lancer le sujet.
Je suis désolé.
Rafik Temgari.
Alors, il y a une différence entre les Ukrainiens et les autres migrants. Encore une fois, ils vivent une guerre.
Il y en a qui viennent d'Afrique et il y en a qui viennent d'Europe.
Non, pas du tout. D'accord. Ah, c'est le discours de l'extrême droite. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était, ça, c'est des Africains. Parce que l'extrême droite,
Non, mais on s'en fout de l'extrême droite. Qu'est-ce que toi tu dis?
Moi, je l'ai dit. je le redis, je dis que c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, les Ukrainiens vivent dans un état de guerre. C'est une guerre aux portes de l'Europe.
Les réfugiés qui sont en bateau, ils viennent d'où?
Mais ils viennent d'Afrique. Ils viennent de Somalie. Il n'y a pas de guerre en Somalie. Les migrants qui sont actuellement, on a de l'Afrique de l'Ouest, on a de l'Afrique du Nord, et c'est pas du tout des zones de guerre. Aujourd'hui, la France, elle l'a fait tout le temps. Elle a accueilli des migrants de toutes parts, des Iraniens,
Pourquoi on a fait ça avec les Syriens?
Parce que monsieur.
Pourquoi on les a pas accueillis? Pourquoi on les a refoulés?
Monsieur, les Syriens, ils étaient plus d'un million de migrants, de migrants, oui. Donc combien c'était quelque chose d'extraordinaire.
Combien on a accueilli de Syriens en France?
Je ne sais pas Jimmy. Combien on a accueilli, mais je sais que la France, elle a été toujours, humaine et elle a toujours accueilli des populations.
Jimmy Dalidou, s'il vous plaît.
Laissez-moi développer sur.
Et ensuite, on avance parce qu'on a d'autres sujets.
Il y a deux choses qui sont quand même incroyables dans ce qui se dit. La première, c'est que, là où je suis d'accord avec Karim, c'est que si c'est vrai, parce que quand il y avait la galère, les Ukrainiens étaient en galère et qu'ils faisaient monter ils organisaient les bus, ils faisaient rentrer les Ukrainiens dans les bus
et ils ont refoulé les Africains.
Puisque vous parlez de chiffres, s'il vous plaît, sonnette. Oh là 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 là. Juste parce qu'on parle de chiffres. En 2017, la France a reçu près de 3250 dossiers de Syriens. Je parle de Syriens réfugiés. Mmh. L'Allemagne, quant à elle, 48 900. Et l'Autriche, 7 200. Voilà les chiffres.
Ah, tu parlais de France humaine.
3 100 000.
Il faut bien dire une chose.
On parle de réfugiés, hein, de la guerre civile.
Une des causes de ce qui, de cette vague d'immigration de personnes qui viennent ici, la principale cause, il faut appeler un chat, c'est la violence de l'impérialisme français l'impérialisme français est particulièrement violent sur le continent africain. Ces dernières décennies, elle a semé le chaos sur tout le continent africain.
J'ai un dernier chiffre, messieurs. Entendez bien, c'est vraiment un dernier chiffre. La France a accueilli au total 10 000 Syriens depuis 2011 sur les 5 millions qui ont fui leur pays. Voilà.
10 000 en 11 ans, hein.
Ouais. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc,
100 000 en un an.
On peut pas accueillir tout le monde, quand même.
Non, mais 100 000
mais
en un an.
On peut pas accueillir tout le monde.
Deux points
aujourd'hui, il y a énormément.
Pierre-Henri, qui vient régulièrement ici. Il a déclaré au journal Le Monde, justement, il y a quelques années. Il a qualifié l'accueil en France de parcimonieux. Voilà.
Je pense que la France accueille des Arméniens, elle accueille des personnes du monde entier. Donc on peut pas dire et c'est ce qui fait la richesse de la France, c'est qu'il y a énormément de diversité.
Alors, donc est-ce que l'attitude est inacceptable de l'Italie qui a renvoyé le dossier?
On est d'accord. Le fait de discuter là-dessus, on parle de 234 personnes quand même. Attendez.
Ouais, donc honte à l'Italie.
Honte à l'Italie.
Il y a des règles à respecter.
Alors pas aux Italiens. Honte au gouvernement.
Gouvernement italien.
Bien différencier les deux.
Oui, alors messieurs,
tout à fait raison.
Nous allons avancer, s'il vous plaît. Nous allons parler d'une autre tension. C'est celle de l'inflation. Vous savez, le PDG de Leclerc, eh bien, il a employé le terme, il l'assume. Un tsunami. Quand il parle de tsunami, il parle des prix dans l'alimentaire qui risquent d'exploser. Cette flambée des prix. Et il dit. Ça va se sentir pas bon, évidemment, à partir de début 2023. Messieurs, que peut-on dire? Et quand il dit ça, qu'est-ce qui nous prépare psychologiquement? Et puis surtout, à quoi peut-on s'attendre? Rafik Temgari.
Je pense que l'année prochaine, il faut
tsunami
s'attendre.
Tsunami ou pas tsunami?
Tsunami, oui. J'espère une petite vaguelette, sincèrement, parce qu'on a le temps encore de négocier. Il faut revenir un petit peu dans l'esprit de dire que c'est pas tout est à cause de l'Ukraine. Donc, un petit pays qui est responsable des prix de l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est pas possible. Je veux dire, l'Ukraine, ok pour le blé, mais c'est pas l'huile, c'est pas le veau, c'est pas la viande, c'est pas. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est responsable de tout. Faux, archi faux. Je pense que Édouard Leclerc a plus ou moins a toujours été un petit peu un homme de terrain, il connaît bien la grande distribution, mais Leclerc, pour rappel, c'est pas la seule et unique enseigne en France. Donc il y a d'autres enseignes qui disent pas les mêmes prévisions. Quand on voit Carrefour, ils disent que oui, il y a des augmentations, mais qui restent plus ou moins relatifs. Donc je pense que C'est à l'État aujourd'hui de faire un contrôle sur les prix, essayer de voir quels sont les aliments où on doit vraiment faire un contrôle, et il faudrait peut-être essayer de faire des subventions, de négocier. Mais je ne pense pas sincèrement, et je l'espère, qu'il n'y aura pas un tsunami sur les prix, parce que sinon là ça va être...
Alors justement, pour éviter ce tsunami, pardonnez-moi Rafik, Karim Alouache et Jimmy Dalidou, est-ce que l'État doit intervenir, justement plafonner les prix, bloquer les prix, pour éviter que chacun fasse des... que ça spécule, tout simplement.
Alors,
parce qu'en ce moment, ça spécule.
Beaucoup de spéculation. Ouais.
Je pense qu'on finira l'année avec un taux d'inflation à 6%, et ce qui nous maintient quand même une inflation, alors, toutes choses égales par ailleurs, relativement basse, c'est le coût de l'énergie. Hein, et l'énergie que l'on paye, même si je trouve...
Est-ce que l'État doit intervenir ?
De toute façon... L'État va devoir intervenir. Alors c'est marrant parce qu'on parle de libéralisme, mais on est tout à
fait
keynésien aujourd'hui.
Pour réguler, bloquer les prix.
Mais non, mais parce que il y a deux phénomènes. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'abord une réalité du coût de l'énergie suite à la guerre en Ukraine. C'est pas le blé qu'on mange aujourd'hui. Il a été récolté l'an dernier. Hein. Donc c'est si on vous vend le blé plus cher, c'est pas parce qu'il a été parce qu'il y a un blocage, c'est parce qu'on anticipe l'augmentation. En fait, tout le monde est dans l'anticipation. Donc il y a une inflation inflationniste.
On peut comprendre le blé, mais on comprend pas l'eau.
La guerre en Ukraine, elle provoque l'augmentation de coût de l'énergie parce que ben oui, on est allé se fournir en Russie massivement, et comme maintenant on n'achète plus le gaz et le pétrole russe, on est un peu bloqué. D'ailleurs,
l'emballage.
La Grande-Bretagne s'en sort bien parce que...
Ah, pas du tout.
L'Inde a dit fuck à tout le monde. L'Inde
la Grande-Bretagne,
écoutez,
c'est le contraire.
Attendez, c'est chaud, la Grande-Bretagne,
bah,
en ce moment.
Attendez, je dis que la Grande-Bretagne s'en sort bien sur l'énergie. Nous, notre inflation, si on sortait l'énergie de notre inflation, dans le calcul de l'inflation, on aurait déjà une inflation à 10%. Largement. Mais comme on met le coût de l'énergie dedans, ça fait chuter. Les Britanniques ne mettent pas le coût de l'énergie dans l'inflation. Vous savez ce que font les Indiens en ce moment ? Ils achètent le gaz et le pétrole en Russie, oui, et le revendent aux Anglais.
Oui.
Parce que c'est le Commonwealth. Mais eux, ils subissent de plein de failles l'autre inflation, et puis ils sont en train aussi de payer la sortie de...
C'est ce que veulent faire aussi les Turcs.
Récupérer
le gaz des Russes.
C'est ce que est en train de préparer les Allemands avec les Chinois. Oui. Vous rigolez ? Moi, ce qui me fait rire... Vous avez vu le voyage du chancelier allemand en Chine ?
Oui.
Il a refusé d'y aller avec Macron.
Oui.
Il a dit « j'y vais tout seul ». Le chancelier allemand, avant que Macron aille en Algérie, il était déjà venu en Algérie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Les Allemands, ils sont devant une situation qui est très simple. Ou je sauve mon peuple, ou je coule.
C'est ça.
Et tous ces grands discours de l'Union européenne, de la solidité, rien à foutre.
Les Italiens, ils étaient les premiers à le faire.
Il est parti, il est en train de négocier et de discuter, parce que sinon, chez lui, il a une guerre. Lui, il a une révolution. Les Allemands sont pas mal industrialisés. Ils vendaient toutes leurs bagnoles en Chine. Là, ils sont en train de réaliser. Et moi, je vous le dis. Alors, tout le monde dit, non, mais j'y crois pas. C'était comme l'histoire de Trump. Je vous pose une question réelle. Est-ce que vous pensez sincèrement que les Français sont prêts encore, en 2023, à se serrer 10 fois la ceinture pour l'Ukraine? En toute sincérité.
Bonne question.
Pas le discours qu'on veut entendre.
Bonne question.
Parce qu'il est bien...
Jimmy Dalidou.
Moi, je pense pas.
Alors, Jimmy Dalidou, l'inflation, le tsunami et puis l'État.
Alors deux choses, Monsieur Leclerc a dit un truc important. Il disait dans son intervention, il disait que la colère grimpe et que ça commence à la colère commence à se sentir dans les foyers et qu'il va falloir intervenir au niveau des prix. Provenant de sa bouche à lui, c'est pas anodin. Alors et qu'est-ce qu'il a dit finalement, Monsieur Leclerc?
Mais c'est normal ou pas normal?
Parce que non, mais attendez, j'arrive. Quelque part, il a clairement dit que, de par l'inflation qui se présente, il faudrait mettre en application une forme de protectionnisme, quelque part. Un protectionnisme qui s'appliquerait... Moi, je pense qu'il faut augmenter les salaires, bloquer les prix, intervenir sur les cotisations sociales, notamment pour les PMI, PME et TPE. Une forme de protection sociale, un protectionnisme, c'est ce qu'il a dit, monsieur. C'est-à-dire qu'il faut protéger la population française de l'inflation. Seulement, dans le même temps, qu'est-ce qu'il vous a dit, monsieur Macron, dans sa dernière interview? Lorsque la journaliste lui a posé la question, est-ce que vous voulez un protectionnisme pour la France? Il a dit non. Il a dit, j'en veux pas. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, blablabla, blablabla. On a un président qui ne veut pas protéger la France de l'inflation. Parce que pour lui, ce qu'il veut, c'est développer la spéculation.
C'est vite dit.
Ce qu'il veut, c'est nous inféoder
à la... comme ça.
Ce qu'il veut, c'est nous inféoder la France au capital financier internationalisé, tous azimuts.
La France s'en sort plutôt bien, je trouve, quand même.
Il faut intervenir sur des éléments. Il faut augmenter les salaires, il faut bloquer les prix et intervenir sur les cotisations.
Allez, on fait juste, je marque juste une pause, s'il vous plaît. On se retrouve tout de suite. On continue de parler d'inflation. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Avant de retrouver Dominique Sopo qui sera avec nous, Les Informés c'est avec Rafik Temgari, Les Informés avec Karim Alouache et enfin avec Jimmy Dalidou. Jimmy Dalidou, juste pour clore le sujet autour de l'inflation avant d'aller direction le Qatar, pour parler de cette Coupe du Monde, mais surtout Vinci qui est visé, qui est mis en examen. Alors, qu'est-ce que vous nous dites effectivement de cette inflation que vous étiez en train de développer avant de marquer la pause?
Non, je disais que vous m'excuserez de faire d'une pierre deux coups et de revenir sur la revendication justement à une grève aujourd'hui. Les deux sont liés parce que la principale revendication, c'est l'augmentation des salaires. Donc il faut augmenter les salaires parce que l'inflation arrive. Les Français, les Français en peuvent plus. Ils sont pris à la gorge. Si en plus leur paquet de pâtes double de tarifs, à mon avis, on va avoir affaire à une colère sociale qui va se mettre en.
Hier on parlait de mobilisation nationale, il y a eu peut-être 100 000 personnes dans toute la France. Je pense que le temps des grèves de tout bloquer, c'est un petit peu obsolète. Il faudrait plutôt construire maintenant, j'ai dit que pour l'instant les grèves, il y a plus de personnes comme auparavant. Hier il y a eu 100 000 personnes dans toute la France, donc je pense que pour un pays de 60 millions, s'il y a eu juste 100 000 personnes, c'est pas assez.
Alors justement, aujourd'hui, messieurs, on va continuer d'en parler. Karim Alouache, avant de retrouver Dominique Sopo.
Enfin, Tariq, je te connaissais pas.
Rafik,
je te connaissais pas, mais je suis étonné de
C'est un bourgeois.
Non, mais j'ai l'impression d'entendre parler des gens de Renaissance.
C'est un bourgeois de Royaume-Uni.
Non, pas du tout.
Je suis pas en face forcément.
Je suis pas du tout.
Avec ce que dit Jimmy, mais je suis. Non, mais il y a beaucoup de condescendance dans la manière où tu lui réponds. Moi, je suis désolé, 700 000 personnes. Vous oubliez l'événement
des 100 000.
2019, 100 000. Attends, mais 2019, c'est pas si loin. Il y avait les gilets jaunes juste pour augmentation de l'essence.
Oui, mais c'est.
Et toi, t'as l'air d'être sûr que ça va pas péter. Moi, j'en suis pas certain. Hein. Non, j'en suis pas certain.
Restons positifs et optimistes.
Justement, restons positifs. Il y a Dominique Sopo qui est avec nous. C'est parti pour l'interview concernant évidemment une manifestation contre le racisme.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec le boss, le président d'SOS Racisme. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Vous êtes avec nous parce que justement, vous organisez une manif contre le racisme. Ça se passe dimanche prochain à la place de la République. Alors dites-nous tout. Contre le racisme, mais c'est pas tout. Justement, vous nous alertez sur un sujet précis. On vous écoute, Monsieur le Président.
Oui, alors d'abord, nous sommes plusieurs à appeler à manifester. Hein, et les organisations antiracistes, des syndicats, des organisations de jeunesse qui appellent à ce rassemblement place de la République qui partira à 15h. Pour aller vers la place de la Bastille et qui vise à dire non au racisme, non à la banalisation de l'extrême droite et à ses idées, parce qu'on voit bien ces derniers jours, malheureusement, comment, les députés RN ont prononcé de façon répétée des insultes racistes, notamment à l'endroit d'un député noir du Val d'Oise. On voit bien comment il y a une stratégie de banalisation du Rassemblement national qui essaye de passer pour un parti qui serait exempt de ces vieux démons, mais tout ça ne doit pas nous impressionner. Il y a une vraie stratégie aujourd'hui de l'extrême droite de faire revenir la parole raciste dans l'espace public comme une parole légitime. Et lorsque l'on voit les insultes qui ont été lancées à Carlos Bilongo, ce député insulté, eh bien on peut aussi penser que dans notre pays, il y a malheureusement, du fait de l'extrême droite et du fait de la banalisation de ses idées, des millions de personnes qui tous les jours reçoivent ces insultes. À un moment, il faut dire « ça suffit ». Et pour dire ça suffit, il faut à nouveau être dans la rue.
Alors, Dominique Sopo, pardonnez-moi. Alors, on a reçu justement ça suffit. Ça fait 40 ans qu'on entend ça suffit et on a l'impression que, hélas, guère, les choses sont en train de prendre une autre tournure, une autre forme. Monsieur Dominique Sopo, Monsieur le Président, je vous pose la question parce que on a reçu le député LFI, Monsieur Bilongo. Et il nous a dit, c'est pas qu'il retourne en Afrique, il a bien entendu. Retourne en Afrique. Il s'adressait à lui précisément. Est-ce que c'est la même chose qu'il retourne en Afrique ou retourne en Afrique en s'adressant au député LFI, M. Milango, qui était sur le plateau il y a quelques jours. Hein.
Ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, de toute façon, la phrase de M. de Fournas est raciste. Qu'il s'adresse au député s'il parle du bâton des migrants, c'est-à-dire des gens qui sont horribles de mort, et donc il dit, quelque part, il ne faut pas les accueillir et les refouler en mer, de quoi parle-t-on? On parle bien, aujourd'hui, d'un parti qui instaure dans le débat public une parole raciste, et ce n'est pas parce que les paroles ne sont pas pénalement répréhensibles que pour autant, on n'a pas une qualification politique éthique à donner à ces propos, qui sont des propos qui, encore une fois, visent à expliquer que les Noirs, les Arabes, les migrants, les immigrés, leurs enfants posent problème dans notre pays. C'est bien l'imaginaire raciste du Front National, du Rassemblement National. Et d'ailleurs, quand on regarde les réseaux sociaux de ce député, on voit bien qu'il a une obsession du renvoi des Maliens, des Algériens, des immigrés de l'autre côté de la Méditerranée.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, le discours de la haine, il prend de l'ampleur. C'est ce que remarque évidemment un peu tout le monde, y compris quand j'ouvre l'antenne, Monsieur Dominique Sopo, y compris dans le milieu politique, y compris dans les médias, y compris dans les réseaux, il prend de l'ampleur. Ce racisme et justement cette intolérance, comment combattre ce fléau, puisque vous l'avez dit vous-même, qui aujourd'hui prend de l'ampleur que vous avez fait référence. Ça fait un peu plus de 40 ans maintenant aujourd'hui. On a le sentiment que les choses sont en train de s'installer dans les esprits et que ça se banalise finalement. Et que tenir un propos raciste est devenu normal, Monsieur Dominique Sopo.
Oui, mais si ça se banalise, c'est aussi parce que il y a eu des gens qui ont fait en sorte que ça se banalise. Et notamment, on remarque quand même, depuis 10, 15, peut-être même quasiment 20 ans maintenant, il y a un discours anti-antiraciste. Et qu'aujourd'hui, être antiraciste, ça devient un problème. Je remarque, par exemple, qu'il y a un très faible espace médiatique qui est laissé aux organisations antiracistes, au point d'ailleurs où souvent les gens nous disent « Mais vous n'oubliez pas plus souvent à la télé, comme si c'est nous qui décidions. » Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se laisser impressionner par tous ceux, toutes celles qui, ces dernières années, avec souvent des airs de faux cul, ouais, avec des discours... cacher un racisme derrière de très beaux concepts d'ailleurs,
oui,
la laïcité, les valeurs républicaines, l'universalisme, finalement ont masqué leur haine des Arabes, leur haine des Noirs, leur haine des musulmans.
Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de me dire, Monsieur le Président, que est-ce que clairement, je vous pose la question, vous êtes en train de nous dire que les préjugés racistes sont toujours présents, et moi je vous pose la question différemment, est-ce que la société française est plus tolérante quand on observe évidemment ces 40 dernières années, malgré les préjugés, malgré la banalisation évidemment qui s'installe?
Ah ben, disons que les choses sont très contrastées. On voit bien que c'est un pays qui est beaucoup plus médiatisé, que quand on regarde les niveaux de tolérance, entre guillemets, qui est notamment une étude qui est faite tous les ans par la CNCDH, on voit qu'il y a des progrès majeurs qui sont réalisés, incontestablement. Ceci étant, il y a deux choses. C'est que premièrement, il y a ces dernières années, une surmobilisation de tout le plan raciste et antisémite qui, aujourd'hui, permet à Marine Le Pen, par exemple, de faire 42% au second tour. Et puis, deuxièmement, ça dit aussi quelque chose d'autre. C'est qu'il n'y a pas des gens qui sont racistes ou pas racistes. En fait, tout le monde est traversé de toute une série de questions, de sujets, de préjugés, de peur, de haine. La question, c'est est-ce que les gens se tiennent? Et là, ces dernières années, ce qui a été dit aux gens, c'est, en fait, arrêtez de vous tenir. Dites publiquement la plus mauvaise partie de vous-même. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Et à un moment donné, il faut aussi que les gens reprennent la parole pour venir dire « Non, nous n'acceptons pas ça. Il faudra à nouveau que les gens se tiennent dans la société. » Sinon, on va vers un délitement et des tensions qui ne font que grandir.
Donc, le rendez-vous est plus que jamais d'actualité ce dimanche 13 novembre à la place de la République à 15h, j'ai le sentiment.
Le discours est d'autant plus d'actualité que, encore une fois, il faut vraiment que les gens aient la certitude qu'il faut reprendre la rue, il faut se mobiliser, il faut se montrer, il faut réaffirmer les choses et arrêter de dire « Ah, mais j'ai été avec telle organisation, ah, mais le président ne veut pas » et avoir toutes les bonnes excuses pour ne pas se mobiliser ou pour dire « Tout ça ne sert à rien ». La seule chose qui rend certain le fait que le racisme, l'antisémitisme, la discrimination progresse, c'est de ne rien faire.
Donc, demain,
on décide d'agir avec plein de jeunes, il faut aussi que tout le monde soit au rendez-vous.
Demain, place de la République à 15h. Dimanche, à 15h. Rendez-vous donc à 15h, place de la République. Merci Dominique Sopo. Merci Monsieur le Président des SOS Racisme. Merci à vous. Et bonne manif pour dimanche. Donc, place de la République à 15h. Le rendez-vous est donné. Ne manquez pas effectivement ce rendez-vous. Il faut plus que jamais lutter contre la montée de ce fléau, la montée contre le racisme. Vous le savez. Et puis, nous aussi, ici à Beurre FM, dans les informés, on y tient absolument. Allez, on continue avec ce sujet. Autre sujet, messieurs, c'est celui de la Coupe du Monde avec vous, les débatteurs influenceurs, Karim Alouache, Rafik Temgari, mais également Jimmy Dalidou. Alors, la Coupe du Monde, mais surtout ce qui m'intéresse, on va pas traiter, c'est un peu tôt pour parler de la Coupe du Monde et du foot, mais surtout, c'est la filiale, une filiale de Vinci, qui est mise en examen.
Oui,
vous avez raison, il a droit à une clochette. Oh oui, il a raison, bravo. On a la liste, ouais. La mise en examen, donc, de Vinci par la justice française. Alors, quelle interprétation doit-on avoir, effectivement, là? Elle donne le ton, la justice française?
Écoute, moi, franchement, là-dessus, ouais. Moi, je suis dans une association et on va emmener des 90 gamins à la Coupe du Monde. Derrière l'événement de la Coupe du Monde, donc c'est avec l'association Sport à Vie.
Ah oui, Sport à Vie.
De Rachid Djouadi.
Bel événement, il y a quelques jours.
Oui, j'avais fait la Coupe du Monde
en Russie.
Au Stade de France. On a fait toutes les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques depuis 2001. Et l'idée, c'est de changer le regard des gamins, des quartiers sur le monde. Moi, j'y serai pas.
Ouais.
On peut pas tous
y aller.
Mais
les gamins, ils seront.
Comment ?
Les gamins y seront.
Y compris
les gamins aussi.
Ça, c'est le plus important. Donc, c'est changer le regard sur le monde, de vivre des grands événements pour changer le regard au même.
Ils y seront à partir de quand ?
À partir du 22 novembre. Et pourquoi on a organisé cet événement ? Avec cette polémique qui est montée, on a été lâchés par des partenaires, tout simplement. Et nous, ce qui nous importe, ce sont les gamins. Je dois ajouter que parmi ces gamins, il y aura 20 enfants autistes, puisque on est dans l'inclusion. Ouais. Pour nous, l'inclusion, c'est pas juste de la théorie ou des propos, c'est vraiment des actes. On le fait avec Sport à Vie tous les étés depuis 2 ans. Dans les colos apprenantes et moi j'ai passé quelques jours dans les colos apprenantes avec des enfants autistes. J'ai moi-même un neveu autiste, donc je suis sensible à ça. Et ce qu'on veut dire, c'est que il faut laisser le sport en dehors de toutes ces polémiques et de la politique, et qu'une Coupe du Monde, ça doit rester une Coupe du Monde.
La
Coupe du Monde a été vue à 10 ans, et on parle d'esclavage. Et ce qui me fait rire, et tant mieux, mais rien n'arrive par hasard, rassurez-vous, le coup de Vinci n'arrive pas aujourd'hui. C'est que ce sont essentiellement aussi des entreprises françaises qui ont construit des stades au Qatar. Et ce sont, jusqu'à preuve du contraire, les entreprises qui mènent leurs règles sur leur chantier.
La pub. On me dit qu'il faut absolument lancer. Et vous, je promets...
C'est toujours
sur moi. Non, c'est vrai que ça tombe souvent sur vous. Effectivement, je lance la dernière tranche pub et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la dernière ligne droite. À tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Pardonnez-moi. Et donc, dernière ligne droite, les informés avec Rafik Temgari, Karim Alouache et Jimmy Dalidou. Vous disiez deuxièmement, avant de distribuer la parole, aux autres débatteurs, justement Karim Alouache.
Non mais y a cet événement en fait arrive à point nommé, puisque c'est une entreprise française qui est mise en examen. Entreprise française mise en examen. Et puis on sent bien qu'il y a un mouvement anti-Qatar qui est en train de monter là, mais effet Coupe du Monde, parce que je sais pas pourquoi.
On a pas eu que le Qatar.
Tout le monde, enfin, certaines tendances politiques, on a écouté la personne des SOS Racisme, mais le racisme, c'est pas que l'extrême droite, hein. Faut arrêter de dire que c'est l'extrême droite. Le racisme, il est dans beaucoup, beaucoup de partis politiques et dans plein d'élus. Et ça, c'est scandaleux. La deuxième chose, c'est que personne n'a réfléchi à une chose.
Oui.
Vous savez pourquoi ont été climatisés les stades au Qatar? La clim, elle va pas fonctionner, pendant la Coupe du Monde. On n'a pas besoin. Les températures ne monteront pas au-dessus de 30 degrés.
Non.
C'est parce qu'au départ, pour que le Qatar ait la Coupe du Monde, on lui a imposé dans le cahier des charges, on lui a dit, écoute, ok, la Coupe du Monde, c'est en juin, juillet, chez toi, il fait 50 degrés, on pourra pas jouer. Donc, on lui a imposé de climatiser les stades, et ils ont les moyens de le faire. Mais sincèrement, vous le verrez, les clims ne fonctionnera pas. Moi, je suis allé au Qatar en novembre, en novembre à 17h.
En pleine polémique du réchauffement climatique, je doute quand même que le Qatar prenne le risque de lâcher la clim.
Adil, elle ne fonctionnera pas parce que les températures ne nécessiteront pas.
Il ferait quoi ? Il va vers maximum 30 degrés ?
Une vingtaine, le soir, même pas 20 degrés.
Donc c'est bien, ça tient. Donc finalement, la polémique, elle n'a pas eu lieu.
On a arrêté de penser du pognon pour rien, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là où je rigole, on voit, ils ont montré sur Téléfoot il y a pas longtemps là, dimanche, les images quand le Koweït joue contre la France, et l'émir du Koweït descend sur le terrain, fait annuler un truc. Quel rapport, si ce n'est que de jeter le discrédit sur des émiratis, sur des régions du monde, ouais, où on veut dire, regardez l'argent. Mais je suis désolé, l'argent, on l'encaisse, c'est ouais, les entreprises françaises.
Enfin, Téléfoot ne peut pas trop cracher, ils ont signé avec le Qatar. Donc,
Non, mais.
Ils ont signé la Coupe du Monde,
pardon,
la diffusion.
On voit bien les messages. Je ne voyais pas ce que fait dans un reportage dimanche l'événement de 82 de la Coupe du Monde où on a un Koweïtien qui descend sur le terrain. Moi, je vais vous dire, nous, en tout cas, on le vit de près. Et on a parlé aux gens qui se sont désistés. On leur a dit, mais et les gamins dans tout ça? Donc, la politique passe devant les gamins. Et ben nous, ce qu'on a fait, on a fait un événement au Stade de France, on a fait un dîner caritatif pour lever des fonds, on s'est défoncé, on y a travaillé des mois, et il y a des gens qui font passer les enfants, qui font passer le sport.
Vous avez raison, on a eu écho de cet événement.
Qui font passer
magnifique événement,
le handicap avant, avant la politique. Et moi, si je dois passer un message, c'est s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. Laissez le football exister. Voilà.
Message entendu, reçu. Rafik Temgari, ensuite Jimmy Dalidou.
Alors moi, là, je suis pas d'accord avec Karim, c'est que quand il dit pourquoi on s'acharne juste sur le Qatar, c'est faux. Quand il y a eu les Jeux Olympiques en Chine, il y a eu la même chose, il y a eu énormément de quelque chose, des droits de l'homme.
On a parlé
En Russie, c'est la même chose. Bah aujourd'hui, c'est sous le Qatar, et je me dis grâce à ces événements internationaux qu'on arrive à faire changer les choses. Il y a quand même des grandes sociétés, organisations internationales, qu'on appelle ça des ONG que je peux citer
de
des milliers.
En 12 ans,
Greenpeace, ou même qui dénonce
Action
des choses.
Contre la faim.
Et il y a vraiment des choses concrètes qui se passent, je dirais, pas qu'au Qatar, mais plutôt sur l'ensemble des pays du mois de...
T'es dans le monde des bisounours, toi.
Oui, non, pas du tout, je termine. Parce que je connais bien et je pars très souvent dans la région. Donc aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a des choses à améliorer.
C'est une ONG qui attaque Vinci Qatar. C'est pas l'État du Qatar qui attaque.
Je finis, je t'ai pas coupé. Aujourd'hui, au Qatar, il y a des choses qui se passent contrairement aux règles de internationales de la traitance de l'humain. Aujourd'hui, n'importe quel étranger se lance son statut, on lui confisque son passeport, et ça existe toujours. Et je pense que c'est vraiment très typique pour cette région-là du monde. Aujourd'hui, on lutte pour que l'homme travaille 35 heures en France, je dirais 40 heures, etc. Là-bas, c'est des personnes qui travaillent jusqu'à 77 heures par semaine. Donc je dis
dans des entreprises françaises.
Mais je dis pas le contraire. Je dis juste que aujourd'hui, c'est chaque société qui vient sur son territoire respecte le droit du travail, comme c'est le cas en France, ça aurait changé. On profite de ces occasions-là pour faire bouger les lignes.
Jimmy Dalidou. Chacun a son point de vue. C'est le lieu.
Le problème, c'est qu'on constate que la goinfrerie du capital le pousse aux pires abominations sociales. Je prends un exemple concret. Là, on parle de Vinci. Vinci est condamné parce que il y a eu une aggravation d'exploitation de la force de travail au Qatar qui a poussé à des désastres humains. Appelons un chat un chat. Ce sont des désastres humains sous prétexte qu'il y a un mondial de football. Ensuite, et je prends un exemple concret, il n'y a pas eu que Vinci. Vous vous souvenez pas du cas Lafarge? France 24 l'a couvert.
Oui.
Lafarge a été condamné aux États-Unis parce que entre 2013 et 2014, Lafarge a versé plus de 10 millions d'euros au groupe Daesh, au groupe État islamique en Syrie.
Oui.
Et il a et
pour continuer à vendre son ciment.
Ouais, ils ont été condamnés et la France voudrait poursuivre Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Mmh. Alors moi je pose une question. À chaque fois qu'on parle des entreprises françaises, donc des monopoles capitalistes, donc des multinationales, elles sont toujours coupables de désastres humains, des pires abominations sociales.
On a la mise en cause dans les conditions de travail sur les chantiers.
Au Qatar, la
filiale BTP Vinci, elle est mise en examen par un juge de Nanterre dans les Hauts-de-Seine pour une enquête sur les conditions travail d'employés dans certains chantiers, notamment consacrés au Mondial 2022 au Qatar.
Les entreprises qui sont coupables, il faut leur. Quand un enfant fait une bêtise, Par exemple, vous le punissez et vous lui dites tu seras privé de dessert. Moi, je propose qu'on prive de dessert les multinationales, qu'on les prive de leurs profits et de leurs capitaux. Nationalisation démocratique, ce sera une bonne punition. On récupère leur outil de production, on nationalise, comme ça, on n'impacte pas sur les. Je vois pas pourquoi les mecs
tout à l'heure, ça m'est revenu.
Alors
tout à l'heure,
sont
c'était
responsables des pires abominations humaines.
Karim,
non, et social.
Rafik et ensuite Karim.
Allez, non, tout à l'heure, ça m'est revenu, c'était Amnesty International. Et Amnesty International, qui a fait des rapports assez intéressants sur le Qatar. Et que je trouve que c'est quand même une organisation qui est vraiment apolitique. Mmh. Et qu'elle fait des rapports assez importants.
D'ailleurs, c'est eux qui ont interpellé le Qatar récemment.
Récemment. Mais pour revenir sur Vinci, j'ai visité le head office, le siège social de Vinci qui vient d'être inauguré. Non, ici, à Paris. À la Défense.
C'est à Nanterre. C'est un beau bâtiment.
C'est magnifique.
C'est impressionnant là-bas.
C'est ce que j'allais dire. C'est très très beau.
C'est impressionnant.
Et que je ne pense pas que les salariés qui ont fait ce beau bâtiment ont travaillé 77 heures et qu'on leur a confisqué leur passeport. Ouais. Donc c'est pour cela que je dis que aujourd'hui, ces sociétés françaises qui sont de chez nous doivent aussi
exporter. C'est en face de l'Arena.
Tout à fait, exactement. Et ils doivent exporter ce modèle-là et dire que aujourd'hui, si on est au Qatar, il faudrait au moins qu'on arrive à exporter ce modèle.
Karim.
Bien.
Moi, je trouve grave.
Il est dans la promotion rapide. Hein.
Toujours dans.
C'est qu'en gros, l'entreprise, elle est merveilleuse en France. Mais comme au Qatar, c'est autorisé d'avoir des esclaves, alors on oublie nos valeurs et on fait des esclaves.
C'est encore plus grave. Bah si, tu me comprends de travers.
La Coupe du Monde a été attribuée il y a 10 ans.
Mais on parle pas de la Coupe du Monde, on parle de Vinci.
On vient d'attribuer les JO à l'Arabie, les JO d'hiver à l'Arabie Saoudite, qui est loin d'être exemplaire sur tout ça. Ça gêne personne. Moi, je vais vous dire un truc.
Dites-nous.
Soit on a des valeurs et on est honnête et réel, et on donne pas la Coupe du Monde, et on dit, dans les conditions actuelles, on vous la donne
soit on la donne
parce qu'on compose avec, et on ferme sa gueule jusqu'au bout, et on laisse le sport exister
tranquillement. On a la chance.
Parce que ce mouvement-là, qui démarre là, en ce moment-là, depuis quelques semaines, en juillet, il n'y avait pas de sujet. Début septembre, il n'y avait pas de sujet.
Parce que c'est bientôt la Coupe du Monde.
Mais moi, ce que je trouve plus scandaleux, honnêtement, et je suis choqué, c'est de dire, Vinci est merveilleux en France, mais là-bas, c'est pas grave, parce que là-bas, c'est autorisé d'avoir des esclaves.
C'est pas ce qu'on a dit. Faut pas déformer les choses. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faudrait exporter. C'est ce qu'on appelle déformer les paroles des autres. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on fait une association avec le Qatar qu'il faut pas
nouveau.
Il faut vraiment faire dire les choses.
Écoutez-vous, s'il vous plaît, les amis. Jimmy Dalidou.
Tu comprendras que c'est un vrai problème éthique. De tenir ce discours et que dans le même temps, je te rappellerai par exemple que l'Arabie Saoudite, il l'a dit Karim, t'as raison, l'Arabie Saoudite récupère les JO. Je te rappellerai, tu te souviens pas des famines qui sont organisées par coalition
Mais c'est très bien pour l'Arabie Saoudite,
chef de file d'une coalition qui crée des famines au Yémen, ça pose de problème à personne qu'ils organisent les JO.
Mais il sait où est-ce qu'il est problème. Il faudrait faire la part des choses.
L'exportation des capitaux des multinationales françaises.
On fait quoi? On donne pas la Coupe du Monde au Qatar?
Soit on estime que d'un point de vue éthique, il le mérite pas et on la donne pas. Si on la donne, et ben on fait avec. Et on arrête de faire cette polémique de dernière minute.
Il faudrait vraiment parler. On est en démocratie, on dit les choses et on fait en sorte de deux. On fait en sorte pour moi.
C'est du néocolonialisme.
Pardon.
Néocolonialisme. N'exagérons pas non plus.
Je suis pas dans mon rôle.
Allez, messieurs,
je suis moi-même.
Allez, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on aille aux États-Unis. Vous savez quoi? Autre sujet, c'est le midterms. C'est ce qu'on appelle le mi-mandat. Le mi-mandat, et puis surtout aujourd'hui, Joe Biden, les Républicains. On peut considérer quand même que Trump, ça a été une défaite personnelle. Joe Biden est-il condamné à composer avec les Républicains? Rafik.
Alors pour moi, sincèrement, je pense que c'est toujours pas fini. Il y a encore, certes, il n'y a pas eu, pour moi, Trump n'a pas vraiment tout eu comme il pensait avoir. Mais encore une fois, les États-Unis, c'est une autre culture, c'est une autre démarche, c'est un autre monde. Donc je pense que pour le mid-term, il pensait gagner énormément d'États. C'est pas le cas. C'est toujours pas joué. Je pense qu'il y a même un État qui doit refaire un second tour parce qu'il y avait trois candidats. Donc je pense que aujourd'hui, les États-Unis, c'est pas encore gagné.
signer, c'est pas encore tranché.
Et je dois rendre l'antenne. Jimmy Dalidou.
Ouais, non, mais il faut pas sous-estimer l'impact politique de Trump. C'est pas impossible que, en fait, ce qui a sauvé Joe Biden, c'est le soutien de Barack Obama, en fait. S'il n'avait pas eu le soutien de Barack Obama, à mon avis, Trump revenait. Mais c'est pas impossible qu'il revienne. Faut pas sous-estimer.
Karim Alouache.
Non, mais clairement, Trump qui était censé aller en justice, défoncé, éclaté par tout le monde. Pour moi, là, c'est une victoire pour lui. Il revient très fort. La deuxième chose, c'est qu'il y a une réalité. Moi, je constate que, pour moi, les démocrates américains sont des anti-européens. Leur ennemi, c'est l'Europe. Pour les républicains, leur ennemi, c'est la Chine. Et moi, je préfère avoir des Américains contre la Chine que contre l'Europe, c'est tout, voilà.
Contre la Chine plutôt que l'Europe.
Bah oui.
Bon. Merci à Karim Alouache. Merci à Rafik Temgari.
Avec plaisir.
Merci à Jimmy Dalidou. Merci à la réalisation.
Bon week-end.
Donc, Tarek, exactement. Profitez de ce week-end.
Et pour Inès, baguette croissant.
Baguette croissant. C'est entendu, Inès. Voilà.
On ne lâche rien.
On ne lâche rien, surtout. Merci à vous. Ce soir, c'est Bilal Nedman de 20 à 21. Vanessa à 21h. Quant à moi, je vous retrouve lundi avec autant de plaisir. Et d'ici là, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.